Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Benjamin Derbez, maître de conférence en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale, donc à Brest. Alors, pour le présenter rapidement, Benjamin Derbez, je dirais que ses travaux se situent au croisement de la sociologie de la médecine, ou plutôt de la sociologie de la biomédecine et de la sociologie de la morale et de l'éthique. Benjamin Derbez a notamment réalisé une thèse soutenue en 2014 à l'EHESS, intitulée « Entre cobayes et partenaires, l'expérience des patients dans l'économie morale de la recherche clinique en cancérologie », où il s'est intéressé, il a cherché à analyser tour à tour les points de vue des médecins, des soignants et des patients engagés dans des essais cliniques. Donc par la suite, Benjamin Derbez a effectué plusieurs recherches postdoctorales. Il s'est notamment intéressé aux informations et à la parentalité dans le cadre de la génétique. Et il s'est également intéressé à l'inclusion de patients âgés dans le cadre d'essais cliniques, dans le domaine de l'oncogériatrie. Donc je laisse la parole à Benjamin Derbez et nous ferons une pause après sa présentation et ensuite nous consacrerons un temps relativement long à des échanges. Merci.
Merci beaucoup Hélène. Merci d'abord pour l'invitation à venir m'exprimer ici. C'est un grand plaisir pour moi de venir partager certaines choses, certaines réflexions et recherches avec vous. Donc la proposition initiale qui m'avait été faite, elle était de présenter quelque chose autour du traitement des questions morales en sciences sociales. Et donc c'est ce que je vais vous proposer ici en faisant un retour uniquement sur mon travail de thèse. Parce que je pourrais dire d'autres choses sur la génétique et bon, sur l'inclusion des personnes âgées dans les essais cliniques, mais là je me contenterai de faire un retour sur mon travail de thèse. Alors pour commencer, déjà simplement quelques mots sur ce traitement des questions morales en sciences sociales qui n'est pas évident. Il s'agit, je crois, d'une question importante qui court en effet tout au long de l'histoire des sciences sociales, mais le plus souvent à bas bruit, de manière assez invisible, malgré quelques tentatives de cristallisation, je dirais, périodiques, notamment autour des travaux de Paul Ladrière et François-André Isambert, dans le domaine de la sociologie de la morale, ou de la sociologie morale, et puis celle plus récente de Didier Fassin, en direction d'une anthropologie morale. Alors si les questions de morale sont moins visibles en sciences sociales, ça tient largement, je pense, à leur caractère épineux et controversé et au fait que, comme l'écrivait Didier Fassin en 2008, il y a une sorte d'inconfort ou de malaise des sociologues, des anthropologues et des sciences sociales vis-à-vis de la morale et de son traitement. Alors d'où vient ce malaise? Je reprends les termes de Didier Fassin. Il y aurait d'un côté une tendance au relativisme culturel qui découlerait de la norme d'objectivité scientifique qui nous enjoint de comprendre sans juger et donc d'interpréter sans évaluer. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi certaines convictions, il parle de convictions d'orientation universaliste qui inciteraient plutôt à contester la légitimité de certaines pratiques, de certaines catégorisations sociales, de certains agencements politiques, etc. Donc cette tension-là, en fait, on la retrouve dans l'histoire des sciences sociales. On la retrouve déjà dès l'origine, je pense, dès les travaux de Durkheim, ses travaux sur la morale, sur son projet de faire une science de la morale ou une science de la moralité comme fait social, une physique des mœurs, puisque ça le conduit à contester, vous le savez, je pense, les fondements absolus et transcendants ou religieux ou même transcendantaux de la morale, mais en même temps, il s'inquiète de la crise morale de son époque et de ses tendances à l'anomie. Et donc, son projet, il est aussi en même temps de faire de la société le fondement d'une nouvelle morale régénérée et donc de fonder une morale sur la société. C'est aussi une tension qu'on retrouve, je pense, à un plan plus épistémologique chez Norbert Elias, c'est cette fameuse tension entre engagement et distanciation, avec l'idée centrale qui est qu'on a une difficulté à maintenir la fameuse frontière tracée par Weber entre le rapport aux valeurs que tout sociologue doit entretenir dans son travail, avec le jugement de valeur qu'il doit s'interdire en tant que scientifique. Donc, partant du constat de cette tension, il semble qu'il y ait une trop grande proximité, si vous voulez, avec les questions morales, ou les questions considérées comme morales socialement, exposeraient le sociologue, l'anthropologue, de façon extrêmement dangereuse à un risque, qui est le risque pour le discours, pour le discours sociologique, de devenir un discours normatif, et pour le sociologue, donc, de devenir un moraliste. Un peu comme si la sociologie morale ou l'anthropologie morale était destinée à moraliser le social. Ce qui, entre parenthèses, est au moins aussi absurde, pour reprendre une analogie de Didier Fassin, que de dire que l'anthropologie médicale permettrait de soigner des hommes, hein, des malades. Mais bon, avec ces questions, je pense qu'on marche sur un fil qui est tendu entre, d'un côté, un écueil, qui est l'écueil de ce que l'on pourrait appeler un relativisme faussement complice, réellement indifférent peut-être, et de l'autre, l'écueil d'une critique faussement surplombante, mais qui peut-être est réellement ethnocentrique ou impérialiste. En tout cas, je pense qu'il est difficile dans certains domaines, et avec certains objets de recherche, d'échapper à cette tension. Et c'est tout particulièrement le cas, et c'est ce que j'aimerais donc vous montrer, dans le domaine de la santé, avec cet exemple, cet objet particulier que j'ai étudié pour ma thèse, qui sont les essais cliniques en oncologie, et que j'ai donc, cette thèse que j'ai soutenue en 2014. Et je me suis dit que, étant donné qu'il y avait beaucoup d'étudiants en master, je crois, ici, ça pouvait être intéressant pour vous que je revienne, en fait, sur la construction de mon objet, comme étant un objet moral, entre guillemets, et en quel sens. Donc, à première vue, les essais cliniques sont un objet qui ressortit plutôt du domaine de la sociologie des sciences et des techniques. Donc ça serait peut-être le troisième croisement dans mes travaux, sociologie des sciences et des techniques, peut-être anthropologie morale et sociologie de la santé, évidemment, puisqu'il s'agit d'une technologie complexe, les essais cliniques, qui est mise au point pour évaluer l'intérêt, la balance risque-bénéfice des interventions ou de certains dispositifs médicaux, en particulier celui des médicaments, dans le cas de la cancérologie. Il s'agit donc d'une technologie qui est hautement standardisée, qui est séquencée en différentes phases. On a les phases 1, les essais cliniques de phase 2, phase 3, phase 4, et qui articule diversement à la fois une multitude de procédures, des procédures de protocolisation, d'autorisation, de sélection, de randomisation, de double aveugle, etc. Mais aussi des outils spécifiques qui sont spécifiquement organisés, des congélateurs ultra basse température, des pipettes, des éprouvettes, des cahiers d'observation informatisés pour colliger les données, etc. Et puis, évidemment, aussi une pluralité d'acteurs qui sont dotés de statuts très différents, selon qu'ils sont professionnels de santé, donc vous avez des médecins, des investigateurs, des infirmières de recherche clinique, ou des professionnels des données, ce sont par exemple les attachés de recherche clinique, les techniciens de recherche clinique, les managers de recherche clinique, les promoteurs, etc. Mais également donc les malades, les patients, et c'est eux auxquels je me suis le plus intéressé. Donc là, contrairement finalement à d'autres technologies scientifiques, les essais cliniques ont cette particularité de faire intervenir des êtres humains, et donc des êtres humains à titre de matériel expérimental. Et c'est cette dimension spécifique, je pense, du dispositif technico-scientifique des essais cliniques qui fait que entrent en jeu des questions anthropologiques et des questions morales. Alors la question morale de ce genre d'activité de la recherche expérimentale en médecine, elle me semble assez évidente dans la mesure où il y a un certain nombre de scandales dans l'histoire qui ont marqué cette pratique, sans même parler des expérimentations dans les camps de concentration nazis, puisque là, la question même de savoir si c'était des expériences scientifiques se pose. Mais la réflexion morale ou éthique sur l'expérimentation médicale, elle est ancienne, elle date au moins de l'Antiquité, et on la trouve dans un aphorisme d'Hippocrate selon lequel, je cite, « La vie est courte, vous en connaissez la première partie, la vie est courte, l'art est long, et ça continue, l'occasion fugace, l'expérimentation périlleuse et le jugement difficile. » Donc l'expérimentation périlleuse, c'est l'avertissement pour le médecin de la dimension éthiquement problématique des essais. Alors, depuis les années 70, à peu près au niveau international, dans les pays occidentaux, les essais cliniques font l'objet d'un travail de régulation éthique important qui a donné naissance à une nouvelle discipline, une discipline normative qui s'intitule la bioéthique. Et l'une des tâches premières confiées aux bioéthiciens, ça a été justement de produire des cadres normatifs pour réguler l'activité de recherche clinique. Et donc, dans ce contexte, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il est difficile, il est devenu difficile pour les chercheurs en sciences sociales d'aborder à leur manière, c'est-à-dire de manière descriptive, de manière non normative, des problématiques anthropologiques qui sont constituées par ces dispositifs médico-scientifiques routinisés qui sont les essais cliniques. Donc, qu'en est-il des malades ? Et qu'est-ce que ça implique de devenir un objet de recherche quand on est un sujet malade ? Quelle est la signification anthropologique de l'entreprise d'objectivation scientifique de l'essai clinique du point de vue de la subjectivité d'individus qui en sont les acteurs centraux ? L'étude d'un tel objet en sciences sociales a ceci de problématique au départ et au plan méthodologique qu'elle est obligée finalement de se positionner par rapport à un ensemble de travaux à visée normative qui sature un peu et même beaucoup, qui sature l'espace de la réflexion et donc qui interpelle sans cesse le chercheur qui travaille sur cet objet. Et donc dans cet exposé, je vous propose donc simplement de revenir à travers cet exemple de mon travail, de l'expérience des malades inclus dans des essais cliniques en oncologie médicale, de revenir donc sur cette problématique plus générale du rapport aux normes dans la recherche en sciences sociales qui s'incarne dans ce cas, mais c'est aussi dans beaucoup d'autres cas, dont la génétique dont j'ai parlé, ou la PMA, etc. Mais donc dans ce cas, qui s'incarne sous la forme du rapport au champ normatif de la bioéthique, avec laquelle l'établissement, je pense, avec lequel ce champ, l'établissement d'un dialogue s'impose, mais sous quelle forme ? Et donc c'est la question que je poserai dans cet exposé. Donc, premier point, pour commencer, je commencerai par m'intéresser à la question de la manière dont je me suis situé dans ma recherche vis-à-vis de la norme, d'une norme spécifique, qui est la norme du consentement éclairé, que vous connaissez certainement, et qui traduit l'importance accordée par la bioéthique à la valeur ou au principe d'autonomie du sujet dans la recherche. Donc, avant de pratiquer tout essai clinique, on doit solliciter le consentement du malade, et ce consentement, il doit avoir été précédé d'une information complète sur la situation et sur le traitement. Donc, quand j'ai commencé ma recherche sur l'expérimentation des malades du cancer qui étaient expérimentalisés, c'est le premier élément normatif vis-à-vis duquel j'ai eu à me situer. Et c'est un élément absolument incontournable, donc, comme je l'ai dit, obligatoire, à la fois au plan éthique, mais aussi au plan légal, en France, depuis 1988. Donc, pour beaucoup, s'intéresser, a priori, aux malades qui sont dans des essais cliniques en médecine, en cancérologie, c'est obligatoirement travailler sur le consentement éclairé et se poser la question de savoir, est-ce que le consentement des malades est bien éclairé ou pas ? Est-ce qu'il est suffisamment éclairé, etc. Alors, au départ, c'est dans cette direction que j'ai été poussé, et notamment par certains de mes enquêtés, notamment par les médecins auxquels j'avais affaire quand j'ai négocié des accès au terrain pour interroger des patients, pour voir comment ça se passait. Soit, d'un côté, alors, les médecins, ils avaient deux attitudes, soit il y avait ceux qui assumaient la problématique du consentement et qui se trouvait mal à l'aise finalement face à certains malades qui manifestement ne comprenaient pas bien l'entreprise dans laquelle ils avaient accepté de participer, soit pour les autres, je pouvais m'intéresser qu'au consentement parce que, en tant que sociologue, ce qui devait m'intéresser, comme un journaliste, c'était l'aspect cobaye de la recherche et finalement rien d'autre. Donc, ma recherche, elle s'est trouvée d'emblée prise en tension entre des attentes normatives, donc d'un côté des attentes normatives qui nous disaient « aidez-nous à mieux faire, expliquez-nous comment on peut améliorer le consentement éclairé », et puis de l'autre, des a priori critiques qui partaient du principe que les sciences sociales étaient toujours là pour dénoncer, pour critiquer, et on trouve ça, cet a priori, chez certains médecins. Donc, je me souviens d'une question franche qui m'a été posée lors de la première réunion de recherche clinique que j'ai faite sur mon premier terrain par une technicienne de recherche clinique. Donc on discute des essais cliniques, etc. On fait connaissance, en fait. Et puis à la fin, elle me dit « Mais la recherche, t'es plutôt pour ou t'es plutôt contre ?» Et donc, d'emblée, avec cette question-là, je veux dire, elle a eu au moins l'honnêteté de ça avait le mérite d'être clair, si vous voulez. Elle me signifiait que... je ne pouvais pas être neutre. La neutralité axiologique sur ce sujet était impossible. Donc, voilà, les choses sont claires. On doit se situer par rapport à cette norme. Donc, dans ce contexte, j'aurais pu... je vous fais un peu une reconstruction de mon cheminement intellectuel, mais dans ce contexte, j'aurais pu, effectivement, partir de l'idée... De cette idée-là du consentement et dire, bon, je vais mettre en regard des normes sociales de type éthique et des pratiques effectives et mettre en lumière peut-être un certain nombre de contraintes sociales, organisationnelles, qui vont peser sur cette activité et faire que peut-être le réel n'est pas à la hauteur de la norme. Alors, j'ai choisi plutôt, moi, de tenir le challenge de la description ethnographique en essayant de ne pas basculer dans la perspective normative. Et donc, ce que j'aurais pu faire par facilité un peu, et donc de ne pas rentrer en résonance avec ces attentes normatives. Donc, je me suis efforcé de ne pas focaliser mon attention sur le moment du consentement quand j'ai réalisé mon terrain. Et il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à cela. Rétrospectivement, moi, j'en donnerai quatre. Un premier type de raison, c'est des raisons personnelles qui tiennent à ma trajectoire professionnelle, puisque avant de me lancer dans une thèse de sociologie, j'ai enseigné la philosophie au lycée. Et donc, j'avais déjà une formation normative, entre guillemets, et ce que je voulais faire, justement, en faisant une thèse de sciences sociales, c'était ne pas faire de la philosophie, ne pas faire du normatif, ne pas prendre une position surplombante par rapport au réel, et ce qui m'intéressait, c'était de faire du terrain, et d'aller voir un peu ce que les individus vivent et comment ils s'arrangent entre eux pour vivre correctement. C'était la dimension empirique. Donc, ça, je pouvais pas, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire personnellement. Et puis, si j'y réfléchis un peu plus, mais ça, je l'ai exposé dans un article que j'avais publié dans Genèse, il y a aussi le fait que cette position-là, du fait que j'avais la sécurité de l'emploi, entre guillemets, en étant enseignant de philosophie, m'a permis aussi de résister à l'imposition d'une problématique par les médecins. Et je me suis dit, moi, j'ai pas d'enjeu de professionnalisation immédiat, donc je veux faire ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de dire aux uns et aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent ou ce qu'il faut qu'ils fassent pas. Deuxièmement, j'ai eu la chance de bénéficier d'un avertissement de mon directeur de labo, qui m'a dit on a discuté sur ma thèse et sur la possibilité de la faire dans son labo, qui m'a dit oui, bon, j'ai déjà vu des philosophes qui ont essayé de faire de la socio et il y en a 2 sur 3 qui ratent, donc fais attention, on ne veut pas que tu fasses de la socio. Donc moi, ça m'a hanté un peu pendant tout mon parcours, et je dois dire que c'est ça aussi qui m'a guidé dans cette attitude-là. Ensuite, troisième point, j'avais une sorte de naïveté épistémologique, je dirais, au départ, parce que j'avais cru comprendre, comme beaucoup, que la grounded theory de Glaser et Strauss, 1962, c'était une injonction à faire table rase de toutes, de toutes nos connaissances a priori, un peu faire un retour aux choses mêmes à la mode phénoménologique, et donc faire partir comme un ethnologue en terrain vraiment inconnu, en se méfiant absolument de ses connaissances et de ses jugements, qui sont et de tout ce qui est susceptible finalement de faire écran à une compréhension adéquate du phénomène que je voulais observer, à savoir l'expérience des patients dans les essais cliniques. Et enfin, dernier point, j'avais l'intuition, qui en fait, j'ai découvert après, hein, avec mes lectures qui étaient largement démontrées par ailleurs dans la littérature, que la norme du consentement éclairé s'appuyait sur une conception anthropologiquement pauvre du sujet, de la subjectivité des malades, puisqu'elle les réduisait finalement à un entendement et une volonté. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Voilà. Et finalement, le reste, tout ce qui est autour de l'entendement et la volonté, ça n'existait pas beaucoup. Donc pendant mon immersion sur mon terrain, pendant 2 ans, dans différents services, 2 services principalement, j'ai cherché à partager au maximum le quotidien des professionnels et des malades que j'observais, noter le maximum de choses sans trop d'a priori, et en essayant de tout noter pour essayer de comprendre. En parallèle à cette activité ethnographique intensive, j'ai entamé un travail aussi d'analyse approfondie de la littérature en bioéthique disponible sur la question des sujets, donc des malades dans les essais cliniques, parce qu'il y a une littérature là-dessus sur les sujets de recherche. Alors, il y avait 2 raisons à cela. 1, c'était un conseil de mon directeur de recherche qui m'a dit « continuez de lire ». Et effectivement, je me suis rendu compte qu'analyser des données ethnographiques, c'était largement dépendant de la culture et de la manière dont on peut les faire jouer avec des concepts et avec d'autres analyses qui ont déjà été portées, peut-être pas sur le même objet, mais sur des objets proches, etc. Et puis, c'était une stratégie argumentative aussi, de ma part, parce que pour montrer l'intérêt d'avoir une approche non normative de cette question qui est toujours traitée de manière normative, il fallait, 1, que je montre que je pouvais amener des éléments nouveaux, donc intéressants, qui n'avaient pas été montrés, mais aussi, 2, il fallait que je montre les limites et les faiblesses de l'argumentation ou de la perspective normative sur cette... Qu'est-ce qu'elle ne montre pas? Qu'est-ce qui est problématique? Donc à la fois une stratégie positive, montrer du nouveau, et puis une stratégie plus négative, entre guillemets, qui est de montrer les limites de de la perspective de laquelle on veut s'écarter. Donc j'ai fait j'ai constitué un corpus d'articles que j'ai analysé, et il en est ressorti que cette perspective était probablement une impasse. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter un moment. C'est l'impasse de cette perspective bioéthique qui rend nécessaire encore plus la perspective des sciences sociales non normatives. Alors, qu'est-ce qui intéresse beaucoup les bioéthiciens dans l'objet, dans le point de vue des patients qui participent à des recherches, donc qui testent finalement des médicaments anticancéreux, c'est un phénomène qu'ils ont appelé le malentendu thérapeutique. Donc en anglais, therapeutic misconception. Un phénomène qui se définit ainsi, bon, c'est une définition qui a été donnée par un bioéthicien qui est psychiatre, d'origine, enfin à l'origine, et qui le définit ainsi, il dit le malentendu thérapeutique pour un sujet de recherche revient à ne pas parvenir à faire la distinction entre les impératifs de la recherche, donc la recherche clinique, et ceux des soins ordinaires. Et de ce fait, d'attribuer de manière erronée une intention thérapeutique à la recherche. Donc, Si on analyse ça, on voit qu'en fait, les bioéthiciens ont d'abord posé une norme, celle du consentement éclairé. Il faut que les malades soient autonomes. Donc, on va leur faire respecter cette règle qui consiste à donner un consentement après information. Mais ils se rendent compte qu'en fait, dans la réalité, ça ne marche pas tout à fait bien. Et que les patients, ils comprennent pas, ils mélangent un peu 2 choses qui sont radicalement distinctes du point de vue d'un bioéthicien, et ça depuis le début des années 70, c'est 1, d'un côté l'activité de recherche et de l'autre l'activité de soins médicaux. Ça, il ne faut absolument pas les mélanger, surtout à l'époque, au début des années 80. Il y a une distinction radicale. Rapidement, je vous l'explicite, la finalité de la recherche, c'est de produire des connaissances. C'est de produire des connaissances généralisables qu'on peut transposer, généraliser à toute une population. Et puis, par contre, à l'opposé, le soin médical, c'est prendre soin d'une personne, d'un cas individuel, donc adapter un traitement à un individu. Donc pas du tout généralisé, mais au contraire, personnalisé, individualisé, etc. Donc c'est prendre en charge un individu ou produire des connaissances pour une population. Et donc on a ici, dans cette distinction, toute la problématisation bioéthique de la recherche avec, d'un côté, la prise en compte de l'intérêt collectif à long terme. Il faut produire des connaissances pour pouvoir mieux soigner les futurs malades. Et puis, la prise en compte de l'intérêt individuel, singulier, à court terme, du malade qui est là. Quand on le fait participer à un essai clinique, voilà, il y a cette tension qui est en permanence là, de savoir si on le soigne ou si on fait de la recherche. Et les malades, manifestement, dans les enquêtes qui ont été faites, eh bien, ils confondent ces deux choses-là, et ils considèrent que l'essai clinique est d'abord fait pour les soigner, alors qu'en réalité, toute la méthodologie de l'essai clinique, je n'ai pas le temps d'y revenir ici, mais toute la méthodologie de l'essai clinique est construite d'abord pour produire des connaissances rigoureuses qui puissent servir le progrès scientifique. Donc, chez les sujets de recherche, cette compréhension est éminemment problématique. Elle l'est également, ça a été montré, chez les médecins. Mais c'est surtout chez les patients que ça pose problème. Autrement dit, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience de participer à une recherche. La plupart ont conscience de participer à une recherche. Simplement, ils ont tendance à surévaluer ou à surestimer la dimension thérapeutique de l'essai clinique. Donc c'est un problème de hiérarchie des finalités. Les deux finalités étant toujours liées dans l'essai clinique. Alors, ce problème-là, il est extrêmement saillant et il y a une très importante littérature, beaucoup d'articles de bioéthique en oncologie, en cancérologie, sur les essais cliniques de phase 1. Donc les essais cliniques de phase 1, je vous rappelle que c'est les premiers essais sur l'homme d'une molécule. On a testé une molécule in vitro, on l'a testée sur des animaux et manifestement, ça donne des résultats contre des tumeurs qu'on a greffées sur des souris, etc. Ben, il faut bien passer à l'homme parce que même si un produit marche sur la souris, c'est absolument pas garanti qu'il y ait un effet antitumoral sur l'homme. Donc, il faut y passer. Et la première étape, ces études de phase 1, sont des études de tolérance et de toxicité. Donc, l'essai clinique de phase 1 ne vise pas à évaluer l'éventuelle efficacité anticancéreuse de la molécule, mais simplement déterminer quelle est la dose maximale de produit qu'on peut injecter à un être humain de manière à ce qu'il puisse l'éliminer et que ça ne soit pas trop toxique. Donc on va injecter le produit par dose, par escalade de dose, par niveau de dose successif, de plus en plus important, en partant d'un niveau très bas et jusqu'au niveau où on se rend compte qu'il y a trop de toxicité et que donc on a atteint un seuil. Voilà, la dose maximale tolérée. Et ensuite, une fois qu'on a cette dose maximale tolérée, qui est réputée en cancérologie être la plus thérapeutique, celle qui a le plus de chances d'avoir des effets thérapeutiques, ben on va, en phase 2, tester cette efficacité. Et s'il y a réellement une efficacité qui est montrée en phase 2, contre des tumeurs. Alors à ce moment-là, on passera à la phase 3, où on essaiera d'objectiver, de mesurer exactement cette efficacité avant éventuellement de mettre le produit sur le marché et de le donner en routine à un certain nombre d'individus. Alors la balance bénéfice-risque, ce qu'il faut savoir, c'est cela. La balance bénéfice-risque de ces essais cliniques de phase 1, elle est extrêmement défavorable aux patients, puisqu'il y a il y a certaines études qui sont un peu anciennes maintenant, mais bon, qui évaluent à 5% le bénéfice objectif possible. Il y a 5% des patients qui tirent un bénéfice. Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris, mais parfois juste que leur maladie est stabilisée quand elle a augmenté. Et puis, il y a 10 à 15% dans la même étude de risque de subir des effets indésirables sévères. Donc, les effets indésirables sévères, ils sont listés et ça, c'est des effets extrêmement délétères. Et 0,5%, mais quand même 0,5% de risque de mort dans ces essais. Donc, ce n'est quand même pas complètement négligeable. Alors, d'autant plus que quand on commence à des toutes petites doses, il n'y a aucune chance que ces toutes petites doses soient efficaces et une quelconque efficacité, donc on est à des doses suboptimales. Donc les malades qui rentrent au début d'un essai clinique de phase 1 avec une dose subthérapeutique, ils ont l'impression qu'ils ont peut-être une chance d'avoir un bénéfice, mais en fait, en réalité, ils ont peut-être encore moins que 5% de chance d'en bénéficier. Et puis, plus on augmente les doses, plus par contre, là, on prend un risque de subir des effets indésirables, comme on dit, très sévères. Donc, pour certains zététiciens, il n'y a pas de chance raisonnable de bénéfice direct dans ces essais, et donc ils sont extrêmement problématiques. Et on se dit, mais pourquoi, finalement, comment les malades rentrent là-dedans? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Les revues de littérature sur la compréhension, le consentement éclairé des patients dans ces essais-là, elles sont terrifiantes. Il y en a deux, une qui date de 2010, j'ai pas refait une mise à jour, mais c'est assez récent, qui montre que la moitié à deux tiers des personnes qui rentrent dans ces essais n'ont pas compris que l'essai était conçu pour déterminer la dose maximale tolérée. Ils surestiment à 20% les bénéfices potentiels et ils sous-estiment les risques en considérant qu'il n'y en a pas. Et ce phénomène donc de malentendu, il est universel puisqu'il touche, dans une étude de 2012, il touchait 94% des 95 patients d'une phase 1. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement répandu. Alors, du coup, moi, dans ce contexte-là, il me semblait complètement aberrant, ou en tout cas absurde, ou complètement inutile, de rééditer une énième étude pour montrer que les patients, en France aussi, dans cet hôpital aussi, ils ne comprenaient pas bien, ou en tout cas, il surestimait peut-être un peu la dimension thérapeutique de l'essai clinique au détriment de sa finalité cognitive et scientifique. Et de plus, en continuant mes recherches, je me suis rendu compte que des bioéthiciens eux-mêmes considéraient que cette manière d'aborder le réel à partir d'une norme qui est prédéfinie, d'une norme d'autonomie, en fait, c'était une impasse. Et je suis tombé sur un article d'un philosophe canadien qui s'appelle Walter Glannon, donc de 2006, qui s'intitulait tout simplement « Phase 1 Oncology Trials, Why Therapeutic Misconception Will Not Go Away ». Pourquoi est-ce que c'est un phénomène irréductible? Parce que, évidemment, quand on se rend compte qu'il y a un malentendu thérapeutique, il y a beaucoup de tentatives pour y mettre fin. Donc, on a essayer de simplifier les lettres d'information, de répéter plusieurs fois l'information, de faire des vidéos d'information, etc. pour les patients. Et en fait, manifestement, rien n'y faisait. Et donc, lui, il explique que de toute façon, l'être humain étant un être à la fois émotionnel et rationnel, de toute façon, dans un contexte de maladie grave comme le cancer, où forcément, il y a de la peur, il y a de l'espoir, etc., eh bien, on ne pouvait pas, il était impossible d'avoir une compréhension complètement rationnelle de la situation. Et donc, il dit ceci, le problème du malentendu thérapeutique ne sera probablement pas éliminé. Dans bien des cas, il pourrait être une dimension inévitable du processus imparfait de recrutement et de consentement dans la recherche médicale. Voilà, donc il enterre un peu le système, en disant que finalement, face à l'irréductibilité du malentendu thérapeutique, on aurait finalement le choix qu'entre une sorte de pessimisme résigné à l'inaction, et puis, ou alors un activisme acharné à mettre en place des dispositifs pour améliorer l'éclairage, entre guillemets, des patients, dans une perspective qui serait finalement une sorte de fuite en avant complètement illusoire. Donc l'alternative, moi, elle me semblait pas du tout satisfaisante, d'autant que sur le terrain, je rencontrais sans arrêt des patients qui me disaient qu'ils étaient tout à fait contents d'être dans un essai clinique, qu'on leur avait très très bien expliqué, qu'ils avaient tout compris. Alors des fois, je voyais bien que c'était pas complètement le cas, mais en tout cas, il n'y avait pas de problématique, il n'y avait pas de problème. Du point de vue de mes enquêtés, la question du malentendu thérapeutique qui paraissait si dramatique dans la littérature en bioéthique, en fait, sur le terrain, ça ne paraissait pas être une problématique pertinente. Du point de vue, donc ça paraissait un peu artificiel, du point de vue de mes enquêtés. Et donc, je me suis dit, au fond, plutôt que de considérer que les malades sont des idiots, ou pour reprendre le terme de Garfinkel, de dire qu'ils sont « judgmental dope », j'ai choisi en fait de prendre au sérieux leur discours, leur expérience et leur point de vue. Et je me suis dit, c'est bien ce qui leur importe, qui m'importe aussi. Et c'est de ça dont je voulais rendre compte. Donc, de manière très pragmatique, mais au sens banal du terme, j'ai voulu donc prendre au sérieux ce discours, ces expériences, plutôt que d'essayer de montrer en quoi ils étaient dans l'illusion, en quoi ils étaient dupes d'un système social qui leur échappait. Donc, c'est finalement un parti pris assez pragmatiste, au sens sociologique, que j'ai pris pour commencer. Donc, comment je m'y suis pris? Alors, je ne sais pas combien j'ai de temps. Alors, ça fait une demi-heure. Donc, troisième point, voilà, comment j'ai pris les choses conceptuellement, sans rentrer trop dans le détail de mes données de terrain, parce que sinon on n'en finirait pas. Donc, l'expérience des patients, et qu'est-ce qu'elle a de moral? Et en quoi on peut la qualifier de moral? Alors, mon questionnement à partir de cette idée-là, de dire, bon, moi je prends au sérieux ce qu'on me dit et je ne considère pas comme les bioéthiciens, comme les philosophes, que les individus se trompent en fait, en réalité, sur leur expérience. Donc mon questionnement, du coup, s'est progressivement construit autour de la question de la construction sociale de cette situation expérimentale, une situation sociale d'expérimentation, en contexte de soins médicaux. Comment, au fond, ma question, c'était quels arrangements sociaux peuvent rendre compte de la stabilisation d'une situation sociale qui est risquée, qui est problématique au plan moral, et qui peut toujours basculer dans le sens de l'exploitation du corps du malade au profit de la science médicale. Comment est-ce que, ou alors, au profit de la science médicale, ou de l'intérêt commercial des firmes qui sont à l'origine souvent de la mise sur le marché ou de la mise dans le pipeline expérimental des molécules. Donc cette situation qui est risquée, qui est problématique au plan éthique, comment elle est stabilisée en contexte de soins, hein? Comment les acteurs arrivent à construire quelque chose qui justement leur semble légitime, puisque moi je le voyais bien, en tout cas, même si ils avaient tous conscience que c'était risqué, ils parvenaient à construire une légitimité de leur situation. Donc pour y répondre, je me suis rendu compte qu'il pouvait être intéressant de reprendre un concept que j'ai trouvé chez Arthur Kleinman, donc chez cet anthropologue et psychiatre qui a travaillé donc sur les questions de la maladie et qui a développé dans un texte, notamment le texte, il date de 1998 et il s'appelle « Experience and its Moral Modes ». On trouve ça, c'est une conférence qu'il a donnée à Stanford. Et donc il a développé ce concept d'expérience morale que moi j'ai repris qui m'a semblé intéressant justement pour aborder les choses de manière non normative. Alors qu'est-ce qu'il dit? En fait, Dans cet article, Kleinman, il fait une distinction claire entre deux choses, entre le discours, ce qu'il appelle le discours éthique, qui est finalement le discours bioéthique, mais le discours éthique qui, selon lui, est constitué par un ensemble de valeurs abstraites, universelles et codifiées, manipulées par les élites. Donc les élites bioéthiques qui manipulent des valeurs, comme j'y reviendrai tout à l'heure, d'autonomie, de bienfaisance, de justice, de choses comme ça. Et puis, donc il le distingue de ce que lui, il appelle l'expérience morale, qui concerne, selon lui, les engagements pratiques des individus ordinaires dans les mondes locaux. Donc je vais un peu préciser ce qu'il entend par là et moi comment je l'ai repris. Donc pour lui, l'expérience, c'est ce que je cite, c'est le flux ressenti de la communication et des engagements interpersonnels. Donc pour lui, l'expérience, elle est morale dans la mesure où elle est, je cite, le médium de l'engagement dans la vie de tous les jours et dans laquelle les choses, dans la vie de tous les jours, dans laquelle les choses sont en jeu et dans laquelle les gens ordinaires sont profondément engagés en tant que partie prenante qui ont des choses à gagner, à perdre ou à préserver. Voilà. Elle est morale, en fait, l'expérience, ordinaire, dans un monde local, donc dans un monde du travail, de la famille, etc. Elle est morale parce que elle est confrontée à des questions qui mettent en jeu des choses où les gens ont à gagner, à perdre et à préserver, et des choses qui leur importent. Il y a un beau livre qui m'a aussi pas mal intéressé, c'est What Really Matters de Kleinman, qu'il a sorti en 2007. Donc ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment pour les individus? Moi, ce que je voyais, en fait, sur mon terrain, c'était que le consentement, ça ne comptait pas vraiment. Ce n'était pas vraiment ce qui inquiétait beaucoup les malades. De leur point de vue, ce n'était pas ça qu'ils avaient à gagner ou à perdre. Il y avait des choses beaucoup plus importantes. Il y avait la question des effets secondaires et la question de l'espoir, de combien de temps je vais vivre, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et c'était ça qui passait au premier plan. Donc c'est un point de vue, je dirais, que Arthur Kleinman développe délibérément non moraliste sur les questions morales ou les questions éthiques, puisqu'il ne cherche pas des principes universels, ce n'est pas ça son objet. Il ne présuppose pas que le moral est, par exemple, ce qui se rapporte à autrui. Que ce qui est moral, c'est ce qui prend en considération l'existence d'autrui, la vie d'autrui, etc. Donc ce qui est un peu l'opposé de l'égoïsme. Donc le moral renvoie à ce qui compte vraiment aux yeux des individus, qu'ils considèrent comme bon ou comme digne d'être vécu. Et est-ce que, donc la question c'était, est-ce que il est bon et digne d'être vécu, est-ce que l'essai clinique, la participation à l'essai clinique est quelque chose qui est digne d'être vécu? Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre dans ma qualité de vie, etc., dans ma durée de vie? Donc elle a ceci de morale, entre guillemets, l'expérience dont traite Arthur Kleinman, qu'elle met en jeu la vie et la mort, clairement, la qualité de vie, les identités, les relations familiales, etc. Donc, et elle est enracinée dans un monde local. Et deuxième caractéristique intéressante du concept, c'est que Kleinman insiste sur son caractère intersubjectif, c'est-à-dire qu'il montre que elle a une practicité irréductible, c'est une expérience pratique, et c'est une expérience pratique qui est sociale, qui implique des pratiques, des négociations, des contestations, je cite, avec ceux avec qui nous sommes connectés. Donc, il n'oublie jamais, finalement, l'expérience morale, ce n'est pas une expérience intime, personnelle, secrète, qui serait dans les recoins sombres de l'esprit de l'individu, c'est déjà d'emblée une expérience sociale, en fait. Ce qui importe vraiment à l'individu, c'est aussi ce qui le relie à d'autres individus. Et donc moi, ça m'intéressait parce que, comme je vais le montrer tout à l'heure, ça me permettait de faire le lien entre l'expérience des malades et le travail des professionnels qui construit beaucoup cette expérience. Donc ça m'a donné des prises empiriques, en fait, ce concept-là, du côté des arrangements, des négociations au quotidien, de ce qui, aux yeux des individus, leur importe, est légitime et avec lequel ils construisent la stabilité de leurs engagements. Et puis, il y avait cette insistance sur les échanges émotionnels qui... Ça a rentré en relation avec ces échanges émotionnels que je voyais se produire tout au long des recherches entre les malades et les professionnels de la recherche. Les relations entre les malades et les recherches n'étaient pas simplement une relation de consentement éclairé. Donc, ça m'a permis de situer cette expérience morale au cœur de ce que... de ce que j'ai appelé aussi, en utilisant un autre concept, l'économie morale de la recherche, c'est-à-dire un système de transactions morales qui parviennent à légitimer, à stabiliser du point de vue moral une situation d'expérimentation en contexte de soins. Donc je passe à ce concept d'économie morale. Donc comment ça s'est fait? Alors ça c'est vraiment là, je vous montre... Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de parler de la petite cuisine d'une recherche, mais en fait, là, il y a un effet d'opportunité. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce concept d'économie morale? Ben, c'est tout simplement parce que j'ai commencé ma thèse dans un laboratoire à l'EHESS qui est l'IRIS, donc l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, qui était alors dirigé par Didier Fassin, et qui travaillait donc sur ce concept à l'époque. Il avait un programme de recherche européen sur ce concept. Et il nous avait, en 2009, il nous avait présenté un article au laboratoire, un article qu'il a publié ensuite dans les annales, sur l'économie morale, la manière dont il définissait. Il définissait ainsi l'économie morale comme la production, la circulation, la répartition et l'utilisation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des obligations dans l'espace social. Alors c'est extrêmement large, hein. Mais moi ce qui m'avait attiré dans ce concept, c'est trois choses à l'époque. Donc un, dans son article, il y fait référence, c'est le fait que ce concept d'économie morale, il pouvait permettre d'analyser les fondements moraux de l'activité scientifique. C'est ce que fait Lorraine Daston avec la confiance dans les travaux, le rapport de confiance que les scientifiques doivent établir entre eux pour pouvoir progresser dans la science. Deuxièmement, il y avait une deuxième chose qui m'intéressait, c'était le fait que c'était plutôt l'usage qui est fait par le politiste James Scott de l'économie morale, à savoir le fait de stabiliser des situations problématiques. Et il le montre quand il étudie les paysans en Asie du Sud-Est, qui auraient toutes les raisons de se révolter, de trouver que leur situation n'est pas tenable, mais il y a une économie morale qui fait que... ils ne se révoltent pas et qu'il y a une stabilisation d'une situation qui pourrait être révoltante. Un peu l'inverse, finalement, de ce qu'avait fait à l'origine Thomson. Et puis, troisièmement, c'est vrai que ce qui m'avait intéressé beaucoup dans la définition que donnait Didier Fassin, c'était le rapport aux sentiments moraux, ce qu'il appelait les sentiments moraux, les émotions. Ça entrait beaucoup en résonance avec moi, ce que je vivais en même temps, en parallèle, sur le terrain, en disant que les expériences morales, sont de part en part une affaire de sentiments. Donc moi, ce travail collectif à l'IRIS, il m'a permis à l'époque d'articuler différentes thématiques qui avaient émergé ou qui étaient en train d'émerger sur mon terrain autour de justement trois sentiments, que ensuite j'ai appelé des sentiments moraux, que sont l'espoir, la confiance et la sollicitude ou le sentiment de care. Donc l'espoir, je ne développe pas beaucoup là-dessus, mais l'espoir c'est un thème très important qui est ressorti dans les discours à la fois des investigateurs et des patients. Il s'agissait de garder l'espoir, d'entretenir l'espoir, de reprendre espoir, dans des situations qui parfois semblaient désespérées, et donc de donner espoir à ceux qui ont envie de se battre, etc. Le thème de la confiance également. Alors, il intervenait beaucoup, notamment quand on les interrogeait sur leur raison, hein, sur leur consentement. C'est un thème symétrique extrêmement fort donc dans les discours des patients. Ce sentiment qu'ils ont de confiance dans l'investigateur, donc un sentiment de confiance personnelle, qui est souvent, donc ça je l'ai montré dans la thèse, qui est souvent appuyé sur une histoire commune de traitement sur le long terme, chronique, avec un médecin, et puis sur l'institution médicale également. Donc confiance institutionnelle. Et enfin, le care, le fait de se sentir pris en charge, de se sentir soigné dans le cadre de l'essai clinique, qu'il n'y a pas de rupture dans la prise en charge, qu'il n'y a pas d'abandon des malades, même les incurables, que rentrer dans un essai clinique, c'est une autre façon de prendre soin. Donc ça, je le retrouvais aussi des deux côtés, avec des médecins qui considéraient que c'était une manière de prendre soin, et puis des malades qui étaient satisfaits justement qu'on ne les oublie pas. Donc, il y avait ces trois sentiments qui émergeaient de manière un peu indépendante les uns des autres. Et je voyais bien qu'il y avait un lien entre ces trois éléments qui ressortaient massivement de mes données, mais je n'arrivais pas forcément à bien trouver le moyen de les articuler, de les tenir ensemble. Et donc, c'est comme ça que c'est grâce à l'usage du concept d'économie morale que je me suis dit que ça pouvait être une manière de montrer que en fait il y a un réseau d'échanges de sentiments avec de négociations, de transactions, parce que l'espoir faut en donner, mais faut pas en donner trop non plus. La confiance, ça se donne, mais il y a quand même aussi des éléments qui font que on sait pas une confiance aveugle, etc. Donc donner de l'espoir, accorder sa confiance, rentrer dans une relation de care sur quelques cycles, voilà ce réseau d'échanges de sentiments qui construisent la légitimité aux yeux des acteurs de la situation de recherche, et donc il me semble que c'est effectivement des sentiments moraux en tout cas on peut leur donner effectivement ce qualificatif dans la mesure où ils sont liés à la définition d'une situation comme bonne, comme étant bonne, légitime moralement, par les individus, avec aussi cette communauté morale. Le concept est aussi lié à celui d'économie morale chez Didier Fassin, cette communauté morale qui se crée entre investigateurs et malades, et même entre malades, dans l'essai clinique. René Fox l'avait déjà montré dans les années 50, mais qui est faite de cette communauté morale qui est faite de dons et de contre-dons, durant l'essai clinique. Donc voilà, en faisant ça, il me semblait que j'avais expliqué un peu l'origine du mal-être que certains médecins, que j'avais vu chez certains médecins vis-à-vis du consentement, qui me disaient au fond on les fait consentir mais ils ne comprennent pas grand-chose, il y en a qui ne comprennent même franchement rien, mais en même temps, ils n'avaient pas l'impression de faire quelque chose qui était, pour reprendre leur terme, inéthique. Ils n'avaient pas l'impression qu'ils abusaient, qu'ils exploitaient les malades. Et donc, d'une certaine manière, je me suis dit que peut-être que finalement, ce qu'ils négligeaient en focalisant leur attention sur le consentement et leur incapacité à atteindre cet idéal du consentement complètement éclairé, ben en fait, ce qu'ils négligeaient, c'était tout l'univers moral infra-éthique incarné dans les pratiques, dans les attitudes, dans les discours. En fait, le ciment effectif de l'éthique, de la légitimité de la situation de recherche, mais qui est bioéthiquement déconsidéré. Alors à ce stade, mon surmoi philosophique et donc mes lectures bioéthiques me rattrapent toujours, et je me dis, mais au fond, un bioéthicien, il pourrait me dire, vous êtes gentil monsieur, vous êtes juste en train de légitimer le fait. En fait, vous êtes en train de passer, de glisser tranquillement de l'être au devoir-être, du fait au droit. Vous êtes en train de légitimer des transactions morales plus ou moins douteuses entre des individus. Et si on vous laissait faire, en fait, il faudrait abolir toutes les règles éthiques, laisser les acteurs. Mais on voit bien que, de toute façon, l'histoire a montré que les acteurs, quand on les laisse faire, ils font parfois n'importe quoi et ça peut donner le pire. C'est quand même un peu... Il y a toujours cette problématique quand on fait des sciences sociales sur ces questions-là. Et je pense que autant on doit avoir du recul critique vis-à-vis des discours normatifs de la bioéthique, en tout cas sur ces questions-là, autant on ne peut pas non plus complètement les rejeter en disant que c'est n'importe quoi et dire que leurs arguments ne portent pas. Ça serait un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, et ce n'est pas ça que je voulais faire. Alors plutôt, moi, ce qui me semblait intéressant, c'était justement non pas de se contredire ou de s'ignorer mutuellement, mais d'essayer d'établir un dialogue qui serait certainement fécond entre nos deux approches. Mais ça, ce n'est pas simple. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai aussi décortiqué un corpus de travaux justement sur les rapports entre sciences sociales et bioéthique, qui est plutôt un corpus anglo-saxon et que vous connaissez peut-être. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais terminer rapidement, je pense. Donc sur le dernier point, le cinquième point sur le rapport, plus en montant en généralité un peu entre la bioéthique et les sciences sociales. Alors pour commencer, je voudrais rappeler l'origine du champ bioéthique. Puisqu'il y a toute une sociologie, comme j'y reviendrai, de la bioéthique. Donc le champ bioéthique, c'est un champ qui se veut d'emblée pluridisciplinaire, dès sa création. Il émerge aux États-Unis à la fin des années 60. Il y a deux préoccupations qui vont faire émerger la bioéthique. C'est des préoccupations environnementalistes, on dirait écologistes, ici. Et puis des inquiétudes vis-à-vis du développement du génie génétique, des manipulations génétiques, et la crainte que les manipulations génétiques puissent donner lieu à la création d'armes de destruction massive de type biologique, un peu comme ça, en effet, avec la bombe atomique. Donc le terme bioéthique, il apparaît en 71 sous la plume d'un cancérologue, d'un biochimiste spécialiste de cancérogénèse, qui publie un livre qui s'appelait Bioethics, A Bridge to the Future, où il dit qu'il veut créer une nouvelle discipline transdisciplinaire qui ferait le bridge, entre biologie et philosophie, entre les faits et les valeurs, entre le présent et le futur, pour préserver la survie et l'épanouissement de l'espèce humaine. Et ça coïncide avec un des plus grands scandales expérimentaux aux États-Unis, que vous connaissez peut-être, qui est la découverte de l'étude de Tuskegee. Donc on avait documenté depuis 1932 l'histoire naturelle de la syphilis, donc le développement de la maladie chez un individu. Donc là, en l'occurrence, c'était des métayers afro-américains analphabètes dans l'Alabama, dans le village de Tuskegee. Donc l'étude commence, c'est une étude de cohorte en 1932, et puis en 1943, on découvre la pénicilline, mais on se garde bien de leur dire qu'on peut les soigner, et on continue de documenter l'évolution des maladies, etc. Et ça a été découvert, finalement, cette étude, qui est une étude officielle du département de santé publique aux États-Unis, est découverte en 1972, sous l'impulsion d'un lanceur d'alerte, d'un travailleur social qui va un peu dénoncer ça à la presse, et même beaucoup. Et donc ça fait un énorme scandale aux États-Unis. Et ça va impulser le mouvement d'institutionnalisation de la bioéthique. Il y a une commission pluridisciplinaire qui se réunit et qui est chargée de justement établir les principes fondamentaux de la recherche, qui seront au nombre de quatre: autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice. C'est donc des principes philosophiques et qui vont être ceux qui vont justifier justement le consentement éclairé. Alors au départ, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'au départ, il y a peu de sociologues qui sont dans la boucle. C'est beaucoup, les bioéthiciens, c'est beaucoup des religieux, des philosophes, des juristes, des médecins, et ils sont dominés par les philosophes. Immédiatement donc, on a des sociologues qui vont dénoncer cet état de fait. L'une d'entre elles, qui est une des plus connues, c'est René Fox, hein, qui publie dès 1984 un article avec Judith Tracy qui s'appelle « Medical Morality is not Bioethics », et qui montre, à partir de ses travaux sur la Chine, que en fait, la bioéthique est centrée sur l'autonomie, c'est-à-dire sur une valeur nord-américaine, sur une valeur états-unienne, d'individualisme, et que ce qui compte, la clé de voûte de l'édifice bioéthique, c'est en fait l'individualisme américain. Et que si on se déplace dans une autre culture, ce n'est pas forcément ces valeurs qui vont être peut-être centrales dans la bioéthique. Je vous donne une citation rapide. Elles disent ceci. Une définition étroite des personnes comme individus et des personnes engagées dans les relations qui imprègnent la bioéthique médicale rend difficile la tentative d'introduire et de trouver une place appropriée à des valeurs telles que la décence, la gentillesse, l'empathie, le soin, la dévotion, le service, la générosité, l'altruisme, le sacrifice et l'amour. De telles valeurs, fondées sur le lien entre le soi et les autres, le soi et la communauté, et qui embrassent à la fois les étrangers et les frères, les générations présentes, mais aussi les générations futures, sont apparentées dans la bioéthique médicale à des considérations d'ordre sociologique, religieux, plutôt qu'à l'éthique ou à la morale. Voilà. On a clairement une scission qui existe entre le sociologique et le philosophique. En 1995, Arthur Kleinman, également, publie un texte qui est repris, qui s'appelle « Anthropology of Bioethics » dans « Writing in the Margins ». Dans ce texte, il dit que la bioéthique est ethnocentrée, donc ça veut dire qu'elle est centrée sur des principes universels, moraux, occidentaux. Elle est médico-centrée, elle est trop centrée sur des questions médicales et pas assez sur des questions environnementales. Et puis, elle est psychocentrée, centrée sur un individu qui aborde les questions morales comme des dilemmes intellectuels. À partir de ça, donc voilà, il y a une grande tension entre le sociologique et le bioéthique dominé par les philosophes, avec des tentatives à partir des années 90 pour articuler, pour faire dialoguer tout ça. Alors du côté des philosophes, il y a un tournant, ce qu'ils vont appeler dans la bioéthique un tournant empirique, c'est-à-dire qu'on a certains philosophes qui vont vouloir faire du terrain et faire des études de terrain de type sociologique, notamment sur la question du consentement éclairé. Donc toutes les données dont j'ai parlé précédemment sur le malentendu thérapeutique, c'est ce tournant bioéthique de l'éthique appliquée. Et puis d'autres qui vont, entre guillemets, choisir la solution de la délégation du sale boulot, enfin du sale boulot à leurs yeux, du boulot empirique, d'aller interroger les gens, et qui vont dire, on veut bien dialoguer, vous allez nous chercher les données, et puis nous, on les analyse, et nous, on leur donne un sens. Hein. Une sorte de division sociale du travail éthique. Alors, du côté des sciences sociales, il y a aussi des tentatives de dialogue. Alors, d'abord, Arthur Kleinman lui-même, qui plaide pour une nouvelle bioéthique en 1999, dans un autre ouvrage, un article qui s'appelle Moral Experience and Ethical Reflection. Can ethnography reconcile them? Voilà. Est-ce qu'on peut réconcilier avec l'ethnographie la réflexion éthique et l'expérience morale? Et donc, il montre qu'il y a un terrible dilemme, un peu celui dont je partais en introduction. Il parle d'un terrible dilemme qui consiste, je cite, à réconcilier l'extraordinaire diversité des formes sociales et individuelles de la vie morale et, de l'autre côté, la nécessité d'appliquer à ces fragments d'expérience une norme universelle qui puisse favoriser non seulement la comparaison, mais l'évaluation et aussi l'action. Et il prend comme exemple les crimes qui ont été commis en Bosnie ou en Rwanda. Il dit il faut bien qu'on puisse, par rapport à ces situations-là, qu'on puisse prendre position, condamner, et si on est trop relativiste, on ne peut pas le faire. Donc il faut réconcilier ces deux perspectives, la réflexion éthique et l'expérience morale. Et il dit ceci, « Bien qu'elle ne fournisse aucune assurance ni aucun moyen pour résoudre le conflit originel, dans la mesure où elle ne vise pas directement l'édification de prescriptions générales, il faut que... l'intérêt de l'ethnographie, c'est de créer les conditions de sa résolution. Hein. Il dit, à tous les niveaux, le travail de l'ethnographie consiste à embrasser et à incarner des situations conflictuelles comme les situations harmonieuses. Il n'est pas de la responsabilité de l'ethnographe d'apaiser ces tensions, mais plutôt de les expliciter et de les articuler de telle manière qu'elles puissent être perçues, comprises et manipulées par les protagonistes. La lourde responsabilité qui pèse sur l'ethnographe est d'accepter et de rendre inévitable une prise de position dans chaque alternative, ce qui est le fondement de l'action morale et éthique. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement de décortiquer les choses pour rendre possible l'action éthique. Et une autre manière encore, une autre position qui est prise par un autre sociologue qui s'appelle Raymond De Vries en 2004, qui pose la question « How can we help ?» Comment est-ce qu'on peut aider avec la sociologie? Au fond, comment les sociologues peuvent aider les bioéthiciens? Et donc, sa solution, elle est un peu insatisfaisante. Il dit qu'il faut qu'on trouve une voie moyenne entre deux attitudes. Soit, d'un côté, la sociologie dans la bioéthique, c'est-à-dire on fait un travail pour les bioéthiciens d'aller, un travail de terrain, d'aller recueillir de la donnée, soit on travaille sur la bioéthique, on fait de la bioéthique un objet d'études sociologiques lui-même, ce qu'on fait René Fox. En France, c'est Simone Batman et Dominique Mémy qui l'ont fait. On fait de la sociologie sûre. Et il dit, au fond, il faudrait être entre les deux. C'est-à-dire ni faire une sociologie sûre, ni faire une sociologie dans, qui serait un peu subordonnée, mais trouver une voie moyenne. Alors peut-être que la voie de Kleinman pourrait être intéressante. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt un troisième auteur, qui est un jeune auteur, qui est spécialiste de sociologie, des sciences et des techniques au Pays de Galles, je pense, à Cardiff, je crois, qui s'appelle Adam Hedgecoe, qui parle de bioéthique critique, critical bioethics, je ne sais plus quelle année, mais c'est relativement récent, en 2004. Ouais, bon, c'est un peu ancien. Mais donc, dans cet article, il essaye de définir ce que pourrait être une bioéthique critique. Qui serait une nouvelle discipline qui serait plus que purement descriptive. Donc, il dit, au fond, il faut qu'on fasse de la description, mais un peu plus. Et alors, comment il donne quatre caractéristiques de cette bioéthique critique. Elle doit être enracinée dans l'empirique, c'est-à-dire attentive à la manière dont les acteurs sociaux peuvent être considérés comme d'authentiques philosophes moraux, d'une certaine manière, manifestant un savoir-faire dans la résolution de dilemmes au quotidien. Elle doit être, deuxièmement, un défi à la théorie. Elle doit être toujours susceptible de soutenir ou, au contraire, de remettre en cause des théories morales. Ensuite, elle doit être réflexive, cette bioéthique critique. Elle doit être réflexive, c'est-à-dire elle doit être consciente de la relativité de son ou de tout point de vue sur le réel. Et enfin, je l'aime bien celle-là, la quatrième caractéristique, c'est d'être poliment sceptique à l'égard des discours bioéthiques classiques, aussi bien que des acteurs, c'est-à-dire de savoir prendre du recul et de ne pas adhérer immédiatement à ce qu'on nous propose. Donc voilà, simplement, donc, c'est, là je termine un peu rapidement parce que j'ai dépassé le temps. C'était ce que je voulais partager avec vous, un peu cet état des lieux, je pense, d'un champ de dialogue qui en fait n'est pas stabilisé, hein, qui fait régulièrement l'objet de tentatives de renouvellement, on essaye de rééquilibrer les choses entre l'empirique et le théorique, entre le normatif et le non-normatif, entre le normatif et le descriptif. Et je pense que sur beaucoup d'autres objets, en particulier sur la génétique, des formes de dialogue nouveaux peuvent s'engager sur ces questions-là. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.